à votre santé. Eh bien, bonjour les auditeurs auditrices de RVM. Eh bien, devinez quel est le numéro de notre émission aujourd'hui, 130. C'est quand même bien. Donc, bonjour, Hélène Mazure au micro et avec moi...
le vice-président de l'association Daniel Cléo
et Christian Max.
Voilà, alors on va continuer aujourd'hui de faire le tour, après évidemment les nouvelles habituelles sur le front de la pandémie, le tour de l'offre de soins sur notre territoire. Alors, à toi la parole, Christian.
Alors, déjà, Omicron, c'est 99,1% des cas positifs en ce moment.
D'accord.
Donc, il n'y a plus beaucoup de place pour le reste. Le taux d'incidence nationale, il est 2498 le 5 février. Le taux de reproduction, donc c'était il y a 2-3 jours, c'est 0,86. Il y a une semaine, c'était 1. Donc, 0,86, ça veut dire que l'épidémie régresse. Elle n'augmente plus.
Bonne nouvelle, l'épidémie régresse.
Le taux d'hospitalisation, il est de 68%. Bon, par contre, le nombre de soins critiques, il est de 3503, donc là, ça diminue. Mais ce qui est fâcheux, c'est que le nombre de décès, lui, continue à augmenter.
Oui. Tu as des chiffres sur l'Oise ?
Ça viendra après.
D'accord.
282 décès par jour, donc en moyenne, la semaine dernière, au niveau national.
Ah oui, au niveau national. Voilà. Oui.
Alors, dans l'Oise, donc, on est des bons élèves pour une fois. Le taux d'incidence est de 1988. Mm-hmm. Pour info, le plus bas de la République française, c'est Mayotte avec 48.
Alors, 48 à Mayotte.
Ils avaient été les champions.
Alors, comment on explique ? C'est la saison ? C'est quoi ?
Mais j'avais dit un temps, tout au début, que l'épidémie à Mayotte, ça ressemblait à une épidémie d'Ancien Régime. Mais ils ont été tellement nombreux à être malades qu'ils en sont quasiment arrivés à l'immunité collective.
Voilà.
En attendant, il y a eu beaucoup de morts. Ils l'ont payé cher.
Ouais. Mmh.
Alors, chez nous, donc, dans l'Oise, le taux d'incidence, donc, je l'ai dit, le taux d'hospitalisation, il est de 81%. Donc, ça a un peu baissé. On a 427 hospitalisés, c'est en baisse. On a 29 réa, c'est aussi en baisse. Par contre, le nombre de décès a remonté, puisqu'on en est à 3 en moyenne du 3 au 9 février. Donc, 3 en moyenne par jour. Omicron est omniprésent, si j'ose dire. Et la tranche d'âge la plus touchée, c'est toujours les 10-19.
Par contamination, pas par les décès.
Les décès, on n'a pas l'âge.
Les décès, c'est plutôt dans les tranches d'âge entre 45 et 65.
Quand même.
Et ça s'explique par le fait que, soit c'est des gens qui ont été contaminés par le Delta et qui n'avaient pas eu leur troisième dose, soit ça peut être aussi des gens qui ont tout ce qu'il faut, mais qui ne résistent, qui supportent mal la vaccination. Ça arrive à tout le monde. Soit c'est des gens qui n'étaient pas du tout vaccinés. Mmh. Et donc, ils sont rattrapés par la patrouille. Hélas pour eux.
Alors, justement, à propos des gens qui ont été touchés par la Covid, j'ai écouté hier soir une émission sur des personnes qui avaient ce qu'on appelle le Covid long. Mais c'est affreux,
C'est terrible,
extrêmement pénible.
Ça peut durer plus d'un an, une fatigue énorme, des douleurs et... une commentatrice disait que ça s'apparentait presque à une maladie auto-immune. Et un peu d'impuissance quand même.
Oui. Ils n'ont pas trouvé de thérapie.
Ils essaient de soigner quand même les symptômes, de traiter les symptômes. Voilà, donc l'immense fatigue, les douleurs par-ci, les différents, parce que c'est un peu différent d'une personne à l'autre, mais quand même, ils ont trouvé. Et il y a quand même un certain nombre de personnes. Bon, ça, je suis incapable de vous dire un nombre, mais il y avait de nombreux témoignages. Oui. Donc, quand même, ce Covid, il laisse des traces.
Une personne qui avait énormément de mal à parler avec
Tout à fait.
C'était très poignant, C'est pas possible de Covid long.
Oui, et donc il y avait eu le chiffre qui a été redonné par l'OMS quand même avec cette vague. Ça faisait combien de de personnes atteintes. C'était des centaines de milliers. Ils ont dit, franchement, c'est énorme. Oui. C'est énorme, oui. Alors qu'il y a la vaccination.
Bon. On est loin de tout savoir sur cette maladie. Et non. On est loin d'avoir fini les recherches.
Voilà. Alors, on avait donc envie aujourd'hui de revenir sur l'offre de soins de notre secteur, parfois qui déborde la CCPV. Je voudrais commencer, moi, par l'hôpital de Senlis et les urgences de Senlis. Et d'ailleurs, la radio, RVM, avait interviewé la présidente, Dr Pruvot-Bitard, présidente du comité de défense. Je voudrais, parce que quand même, d'avoir des urgences de proximité et des services hospitaliers de proximité, de qualité, c'est quand même important. Parce que le problème, donc il y a deux problèmes. Il y a les orientations, les réformes politiques qui ont été menées. Le but était de regrouper donc des centres hospitaliers sous prétexte que fallait mutualiser, il fallait travailler ensemble, il fallait... voilà. Eh bien, donc maintenant, je crois que ça fait 10 ans. Alors, c'était aussi pour faire des économies au niveau financier. Hein, pour,
tu peux dire rentabiliser.
Bon. Et donc, ce qu'on on trouve... Et puis, ah oui, soi-disant, l'objectif de la fusion, c'était une attractivité pour les médecins et les patients. Pour dire, vous voyez, si vous n'avez pas Senlis, vous avez un Creil, si vous n'êtes pas là, vous allez trouver tout. Eh bien, le docteur Pruvot-Bitard dit, eh bien, écoutez, c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est un échec. Et en fait, on va vers la disparition de l'hôpital. Et elle cite l'hôpital de Méru et l'hôpital de Beaumont-sur-Oise qui ont été fusionnés. Et aujourd'hui, à la place de l'hôpital de Méru, on a un EHPAD, et c'est tout. Et c'est tout. Ils ont perdu leur centre hospitalier. Moi, franchement, le centre hospitalier de Senlis, alors, outre qu'il y a la maternité, hein, c'est, si jamais il fermait, ça ferait encore une maternité en moins, alors qu'elle est toute équipée et tout. Il a un service de gériatrie vraiment remarquable, oui. Un service de soins palliatifs, ouais, aussi. Ouais. Alors, la chirurgie pédiatrique, malheureusement, le service a été fermé. Il y a encore de la pédiatrie, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, hein, c'est des services qu'on n'a pas à Crépy-en-Valois. C'est quand même le plus proche. Et quand on ferme d'un côté, on va surcharger un autre établissement.
Donc, on peut mentionner que la maternité de Creil a fermé pour être transférée à Senlis. Voilà.
Donc, pourquoi ce petit rappel, chères auditrices, auditeurs? C'est pour que vous interveniez. C'est notre intérêt à tous et toutes de garder le maximum d'offres de soins, surtout quand y avait ce qu'il faut. Hein, et donc, il y a une pétition en ligne qui a été lancée par le comité de défense. Alors, elle n'est pas compliquée. C'est www.urgence.senlis.fr.
Urgence au pluriel.
Urgence au pluriel, oui. Senlis.fr. Allez-y. C'est un comité de défense qui mérite d'être soutenu. Oui. Ils sont près de 900 adhérents, quand même, hein, depuis 2015. Voilà, il faut nous tenir l'écoute. C'est pour notre intérêt à tous. Eh bien, on va venir maintenant. Nous avions traité, il y a 15 jours, je crois, ou 3 semaines, les médecins généralistes présents sur le territoire d'un CCPV. Tu te souviens, Daniel ?
Oui, on a eu des chiffres qu'on a contrôlés, parce qu'on aime bien quand même fouiller un petit peu dans les chiffres. Donc, on n'était pas tout à fait d'accord sur certains chiffres. Bon.
Et certains non.
Et certains non, oui, parce que des médecins étaient partis en retraite depuis quelques temps, voilà.
Et donc, puis, tu te souviens, là. Donc, nous faisons référence au bulletin de la CCPV intitulé « Bonjour Valois » de décembre. Et donc, il y avait toute une page. Alors, j'ai bien aimé le titre de la page. Hein.
Oui.
Service public.
Voilà.
Je le cherche, le service public, là-dedans. Il n'y a aucun service public. L'action santé de la CCPV.
Public.
Et donc,
on avait donc eu un petit petit tableau où on trouvait 34 médecins généralistes. Alors nous, on a cherché un petit peu, on a recoupé nos renseignements avec Amélie, avec Doctolibre et la CPAM. On en a trouvé 28 au lieu de 34. Ensuite, pour les spécialistes, il y a quelques gens de chez nous qui ont regardé les plaques des maisons. Et puis, bon, voilà, maintenant, tu vas nous faire la synthèse des spécialistes un petit peu.
Oui.
En ayant, je le reprécise, fait des recherches. Hein, on a peut-être fait des erreurs.
Voilà.
Oui, oui, parce que nous n'avons pas les moyens d'investigation de la CCPV. Donc, si jamais des auditeurs constatent qu'on leur a dit une bêtise, surtout qu'ils nous le disent. Nous, on ne sera pas vexés.
On ne va pas rougir.
Voilà, voilà, nous sommes des bénévoles, des citoyens qui nous occupons de nos affaires. Et donc, alors, pareil, des médecins, enfin spécialistes qui sont mentionnés et qui n'exercent plus. En dermatologie, docteur Brachard n'exerce plus depuis 3 ans. Alors, il y a toute une série en gynécologie qui sont cités,
7.
Mais ce n'est pas ceux qui exercent à Crépy.
Non, c'est... non, y en a deux qui viennent de temps en temps à Crépy. Tous les autres sont des médecins qui relèvent de la polyclinique Saint-Côme à Compiègne.
Voilà.
Et qu'on ne verra jamais à Crépy.
Voilà.
Par contre, on les verra si ceux de Crépy nous envoient à Compiègne à la polyclinique.
Tout à fait.
On est arrivé à un chiffre de 7.
Oui, c'était pas du tout. Donc je dirais par la suite les noms vraiment de ceux qui exercent à Crépy et chez qui on peut prendre rendez-vous. En néphrologie, là aussi, on cite le docteur Tolani qui est en retraite. Les ophtalmologistes, c'est complètement, fantaisiste. On cite le docteur Muth qui, tout le monde le sait, est parti. Elle devait être en retraite,
ou
à Chermont.
Pratiquement, oui.
Et on cite aussi son remplaçant, le docteur Oubedoun. Et lui, écoutez, il est parti aussi.
Voilà.
Donc, c'est pas ces deux-là chez qui vous pourrez prendre rendez-vous.
Non.
En radiologie, on a un peu la même chose qu'en gynécologie. Le docteur Nussbaum est cité, mais lui aussi, il est en retraite. Et la liste qui est donnée...
Elle est bien longue, mais ce sont tous les médecins de Saint-Côme.
Voilà, la CRIM de Saint-Côme. Alors, écoutez, on va prendre... On ne pourra pas tout vous dire aujourd'hui, mais on va prendre par spécialité ceux dont nous sommes sûrs et qui, pour la plupart, exercent sur le site de la maison médicale en lien avec le centre de santé du Valois. Ça a toujours été des spécialistes qui venaient consulter.
Avenue de Senlis à Crépy-en-Valois.
Voilà.
Numéro 20.
Alors là, on ne peut pas être plus précis.
Alors, il y en a un qui vient de l'hôpital. C'est le...
Docteur Bottereau, le cardiologue.
Voilà. En cardiologie, donc, c'est le docteur Bottereau.
Très efficace et super sympa.
Oui. Ouais. Il est vraiment très...
Ouais. Bon, il est souvent en retard, mais ça ne l'effraie pas du tout. Hein.
Oui, il est très, très calme et très consciencieux.
Oui,
franchement,
oui, chapeau.
Oui. Quand on a eu l'occasion d'avoir une consultation, on voit qu'il est très sérieux. On est content d'avoir... Et alors, il consulte quand même 4 après-midi par semaine, du lundi au jeudi, si je me souviens bien. Voilà. Et jusqu'au soir. Donc, c'est quand même bien. Parce que certains des spécialistes que nous allons vous citer ne viennent qu'une fois par mois. D'autres, une fois par semaine. Alors, voilà pour le cardiologue, qui vient de l'hôpital. Et il y en a un aussi qui n'est pas rattaché, enfin, qui ne consulte pas au centre de santé. C'est le néphrologue. Je vous ai dit tout à l'heure que le docteur Tolani était
en retraite. Ouais.
Donc, il a exercé au centre-ville, mais plus maintenant.
Ouais.
Voilà. Donc, on n'en parle plus. Alors, chez qui peut-on aller pour une consultation? Alors, en ophtalmologie, nous avons toujours le docteur Gedge qui est dans le bâtiment indépendant à côté de la maison médicale.
Ce qu'on appelait le cabinet des spécialistes à une époque, oui.
Voilà. Alors, c'est vrai que maintenant, ce sont des appartements, mais lui, il a gardé son cabinet.
En bas.
Voilà, le docteur Gage. Mais c'est tout ce que nous avons en ophtalmologie. Et je pense que le docteur Gage n'est pas loin de la retraite, de l'âge de la retraite. Ensuite, puisqu'on parlait de gynécologie, Donc, c'est quand même une bonne chose parce que auparavant il y avait une gynécologue qui venait de Compiègne, en libérale, et elle a arrêté. Et il y avait plus. Alors, elle est citée encore, c'est le docteur Lejeune. Eh ben non, c'est fini. Madame Lejeune ne consulte plus. Par contre, il y en a deux de la clinique Saint-Côme, le docteur Delaby et Michel Luc. Et toutes les deux, en fait, viennent donc de la polyclinique et viennent une fois par mois, ce qui fait qu'on peut avoir une consultation possible une par quinzaine. Ensuite, sur place, on a toujours eu en biologiste, parce que qu'est-ce qui était cité en biologiste? Il y en avait combien dans leur...
Un seul. Un médecin.
C'est faux. Tout le monde sait qu'au laboratoire de la maison médicale, eh bien, il y a deux biologistes. Tu connais les noms? Vous connaissez les noms?
Grossas et Jeuneau.
Voilà, ça y est. Les docteurs Grossas et Jeuneau. Ils y sont toujours. Voilà. Et il y a d'autres spécialités qui sont assurées. La chirurgie viscérale avec le docteur Attal.
De l'hôpital de Compiègne.
Attal, il est de l'hôpital de Compiègne.
Oui.
Bon, je ne savais pas.
Service public.
Oui. L'urologue, le docteur Géraud. Et en orthopédie, c'est récent, le docteur De Santis. Voilà. Nous nous arrêterons là pour l'offre de soins de proximité. Pour aujourd'hui, nous continuerons notre enquête, puisqu'en fait, ça demande beaucoup de recherche pour être sûr de ce qu'on vous avance. Avant de terminer notre émission, il y a eu quand même dans l'actualité quelque chose qui nous a scandalisé. Le scandale donc des EHPAD qui deviennent des tiroirs à Afrique. Quoi. Ouais. Je ne sais pas comment on peut les appeler, mais c'est vraiment horrible.
Faut préciser que les actionnaires exigeaient un taux de rendement de 30%, voilà. Ce qui est énorme.
Ouais. C'est effrayant. Comment on peut essayer de tirer 30% dans des soins? C'est vraiment...
C'est sur le dos des malades.
Voilà. Et ça montre bien, chers auditrices, auditeurs, que nous avons raison.
Sur le dos des malades et du personnel soignant.
Et du personnel, c'est vrai.
Tout à fait. Il ne faut pas oublier. En tous les cas, ça nous montre bien que nous avons eu raison de nous diriger vers un système de soins à but non lucratif avec les centres de santé. Hein, ce qu'on cherche, c'est soigner les personnes, les patientes et les patients, et non pas faire de l'argent. Et à propos des EHPAD, on pourrait parler aujourd'hui au moins de trois EHPAD de Crépy-en-Valois. Donc, peut-être les connaissez-vous. Il y a donc celle qui s'appelle les Primes Verts, qui est dans le quartier des Fleurs, celle qui s'appelle Étienne-Marie de la Hante, excusez-moi, qui est en fait en face de l'hôpital, et celle qui est à l'intérieur de l'hôpital, qui s'appelle Saint-Lazare. Et ces trois établissements, ils sont de quel type ?
Public.
Ils sont gérés par l'hôpital. Donc vous comprenez, chers auditrices, auditeurs, pourquoi on se bat pour maintenir les structures hospitalières, les structures publiques qui n'ont comme mission que la santé de nos concitoyennes et concitoyens.
Sans dépassement.
Oui, sans dépassement. Alors certes, c'est vrai, les prix sont affichés, hein, vous pouvez chercher, c'est les places qui sont chères.
Bien sûr.
Voilà. Bien sûr. Mais... Et ajoutons, au Prime Vert, il y a une unité Alzheimer. Il y a quelques lits, voilà, pour une unité Alzheimer. Et à la Hante, il y a quelques lits pour des handicapés vieillissants. Donc, on peut dire qu'on a quand même ce qu'il faut à Crépy-en-Valois. Et nous allons terminer là-dessus, n'est-ce pas? Et vous souhaitez une bonne semaine, chers auditrices, auditeurs. Vous savez que vous pouvez toujours réécouter notre émission le samedi à 10h30, le mardi à 13h, le jeudi à 16h et bien entendu en
podcast.
Bonne semaine.
Bonne semaine et portez-vous bien. Au revoir.